Kurdistan irakien, nouvelle frappe du CGRI contre les positions des terroristes anti-iraniens. Au moins 24 morts dans des raids de l'armée turque en Syrie. Et en RDC, les rebelles du M23 ne déposent pas les armes malgré les appels au cessez-le-feu. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, ont fait état ce lundi 21 novembre du début de la nouvelle série d'attaques aux missiles et de drones contre les positions des terroristes dans le nord de l'Irak. Dans le prolongement du processus de destruction des sièges et positions des groupes terroristes séparatistes anti-iraniens dans le Kurdistan irakien, la base Hamzeh Saïd Shohada des forces terrestres du CGRI a lancé ce lundi, dans la matinée, une nouvelle série d'attaques, homicides et de drones contre le reste des positions des mercenaires à la solde de l'arrogance mondiale, a annoncé le CGRI dans un communiqué. De nouvelles attaques combinées à l'aide de missiles et de drones kamikazes ont été menées contre plusieurs positions de groupes séparatistes et terroristes anti-iraniens dans le nord de l'Irak. Les frappes ont visé les positions du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, PDKI, et du Parti Komala dans la région du nord du Kurdistan irakien, rapporte la chaîne d'information iranienne en langue arabe Al-Alam. 4 missiles ont été tirés sur une position du PDKI dans la ville de Köy Sanjar, dans la province d'Erbil, tandis qu'une attaque de drone kamikaze a été menée contre un autre site du groupe près du village de Baharka. Entre-temps, des drones kamikazes ont frappé 2 positions associées à Komala, près de la ville de Sulaymaniyah, dans la région. Sabari News, une chaîne d'information Telegram affiliée aux forces antiterroristes irakiennes, a annoncé que les attaques avaient déclenché les sirènes d'alerte au consulat des États-Unis à Erbil. Les bases militaires américaines sont également en état d'alerte. Selon des sources locales kurdes, environ 26 terroristes ont été éliminés. Le commandant de la division aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, affirme que l'Iran possédait une puissance de drones de niveau mondial, était désormais un pionnier de la technologie de missiles balistiques. Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh a fait ses remarques lors d'une cérémonie tenue dimanche 20 novembre, affirmant que l'Iran était à égalité avec les puissances mondiales en termes de technologie de drones et que ses réalisations dans ce domaine avaient défié les puissantes armées du monde. Il existe de nombreux autres acquis militaires qui seront dévoilés au temps opportun, comme la capacité de toucher des cibles ennemies à une distance de 1500 km, a déclaré le général Hajizadeh. Il a ajouté qu'en termes de technologie de missiles, l'Iran se situe au-dessus du niveau mondial, ajoutant « La nouvelle du dévoilement du missile hypersonique avancé, capable de manœuvrer en dehors de l'atmosphère, n'a pourtant pas été un acquis nouveau, mais le CGRI a décidé de l'annoncer récemment. » Il a ajouté que le missile hypersonique iranien représentait une poussée de croissance générationnelle et que les ennemis ne seraient pas en mesure de le contrer pendant des décennies. Dans le domaine spatial, nous avons récemment pu lancer le porte-satellite Raem-100 à combustible solide, a déclaré le commandant iranien en ajoutant « Nous mettrons le premier satellite en orbite avant mars 2023 en utilisant le porte-satellite Raem-100 ». Plus tôt ce mois-ci, la force aérospatiale du CGRI a lancé avec succès le lanceur à 3 étages Raem-100 à propulsion solide. Le Raem-100, premier du genre fabriqué par les scientifiques iraniens, est capable de mettre sur orbite des satellites pesant jusqu'à 80 kg à une distance de 500 km de la surface de la Terre. Au cours des dernières années, l'Iran a réussi à fabriquer et à mettre dans l'espace différents satellites et à lancer divers lanceurs. Fin juin, l'Iran a testé pour la 2e fois sa fusée porteuse de satellites à propulsion hybride et développée dans le pays, appelée Zuljanah, à des fins de recherche prédéterminées. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué dimanche 20 novembre, pour la 4e fois en 2 mois, l'ambassadeur britannique à Téhéran, Simon Sharcliffe, pour protester contre une récente attaque d'un groupe violent contre l'ambassade d'Iran à Londres. Le directeur général du protocole du ministère des Affaires étrangères a rappelé à l'ambassadeur britannique les obligations du gouvernement britannique conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Le diplomate iranien a ensuite transmis à l'envoyé britannique la protestation véhémente de Téhéran contre l'inefficacité et l'incapacité de la police britannique à empêcher l'attaque contre son ambassade. L'incident est survenu après qu'un groupe violent a attaqué le bâtiment de l'ambassade d'Iran à Londres et a insulté le drapeau de la République islamique d'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué en octobre le diplomate britannique pour protester avec véhémence contre l'ingérence britannique dans les affaires intérieures du pays et les nouvelles sanctions de Londres contre la République islamique d'Iran. L'armée turque a mené de nouvelles frappes aériennes contre le nord-est de la Syrie, tuant un certain nombre de militaires et de civils syriens. Selon le centre russe, pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, les frappes aériennes de la Turquie contre la ville d'Alep en Syrie ont fait des victimes parmi les civils. Les frappes aériennes menées par des avions de combat turcs F-16 dans le gouvernorat d'Alep en Syrie ont fait des victimes parmi les civils, a déclaré dimanche Oleg Yegorov, chef adjoint du centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Les frappes de ce dimanche ont visé des zones résidentielles syriennes d'Afrin et de Kobani. La chaîne de télévision Rodab, basée à Erbil, a rapporté qu'au moins 15 soldats syriens avaient été tués dans les frappes turques contre les zones kurdes des gouvernorats d'Alep, de Raqqa et de Hasaka. Au moins 9 civils ont trouvé la mort, selon des sources syriennes sur le terrain. La Turquie affirme que les raids aériens visaient des éléments kurdes soutenus par les États-Unis, connus sous le nom d'Unité de protection du peuple YPG et le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, qu'Ankara accuse d'entretenir des liens avec les YPG. Le gouvernement turc accuse le PKK d'un attentat à la bombe survenu le 13 novembre dans une artère commerçante d'Istanbul, qui a fait 6 morts et plus de 81 blessés. Ni les YPG, ni le PKK n'ont revendiqué cette opération terroriste. Les forces armées ukrainiennes ont procédé dimanche 20 novembre à de nouveaux bombardements contre la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. 15 balles ont été tirées près d'une installation de stockage de déchets radioactifs et d'un bâtiment où se trouve du combustible nucléaire. Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhia, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon ce document, les forces ukrainiennes auraient tiré plus d'une vingtaine d'obus de grand calibre sur la centrale. Ceux-ci auraient explosé entre les blocs énergétiques numéro 4 et 5 et visé le toit d'un bâtiment spécial situé à proximité de ces blocs. Suite aux puissantes explosions près de la centrale nucléaire, l'organisme de surveillance de l'énergie nucléaire de l'ONU a déclaré que les forces derrière le bombardement de la centrale nucléaire jouaient avec le feu. L'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA, qui a des experts basés à Zaporizhia, a rapporté dimanche 20 novembre que de puissantes explosions avaient secoué la région samedi soir et dimanche. Il a déclaré que ces experts sur place avaient vu certaines des explosions depuis leur fenêtre. Il a signalé plus d'une douzaine d'explosions avec des dommages à certains bâtiments, systèmes et équipements, mais aucun jusqu'à présent ne critique pour la sûreté nucléaire. Les offices religieux ont été écourtés dimanche 20 novembre dans des villages du nord-est de la République démocratique du Congo, RDC, par l'irruption des rebelles du M23 qui restent à l'offensif en dépit des appels à déposer les armes. Les lignes de front étaient restées calmes samedi, laissant croire que les appels à cesser le feu pouvaient avoir été entendus, mais la calmie n'a duré qu'une journée. Nous étions à l'église pour le culte et le M23 a surgi en tirant beaucoup de coups de feu, a déclaré à l'AFP par téléphone un pasteur de Katvigourou, agglomération du territoire de Rutshuru, située sur le front nord-est des combats entre l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars. Selon un responsable de la société civile locale, Jean Bosco Bahati, les rebelles se sont emparés de plusieurs villages de la région, à quelques 35 km d'Ishasha, la localité frontalière de l'Ouganda, située non loin du lac Édouard. La population est en débandade, a-t-il témoigné. Selon un autre habitant, l'armée s'est repliée vers le nord. Plus au sud, les combats ont aussi repris dimanche matin à une vingtaine de kilomètres au nord de la grande ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, au niveau de Kibumba, qui marque depuis plusieurs jours la ligne de front sud. Depuis ce matin, les combats font rage dans la région, a indiqué un habitant. Trois officiers, dont un colonel, viennent d'être blessés dans les combats, a précisé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 20 novembre 2012, le M23 s'était emparé de la ville de Goma, qu'il avait occupée pendant une dizaine de jours, avant de se retirer et d'être vaincu l'année suivante. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Europe, coupure d'électricité, nouveaux défis à surmonter. La flambée des prix de l'énergie associée à une inflation galopante a mis les moyens de subsistance des Européens sous de lourdes contraintes après que les Européens ont rompu leur lien énergétique avec la Russie, le principal fournisseur de gaz naturel de l'Europe, à la suite de la guerre en Ukraine, déclenchant une grave crise économique sur le continent. Nous devons nous attendre à des pannes d'électricité en hiver et j'entends par là qu'une interruption régionale et temporaire de l'alimentation électrique, a déclaré Ralf Tisler, responsable allemand, ajoutant que les coupures de courant étaient dues à la fois à des pénuries d'énergie et à des arrêts temporaires de l'ensemble du réseau. Le responsable a en outre poursuivi qu'il faisait référence à des pannes de courant à court terme, appelées baisses de tension plutôt qu'à des pannes à grande échelle. Tisler a averti que la situation pourrait potentiellement atteindre un point critique, exhortant les Allemands à faire le plein de nourriture, d'eau et d'autres produits essentiels. Les deux dernières années ont été très difficiles pour les Allemands, a déclaré Tisler, ajoutant que la pandémie de COVID-19 était un excellent exemple des effets imprévus d'une crise. Les années à venir doivent être encore plus difficiles à la lumière de la détérioration de la situation climatique et d'autres tensions géopolitiques graves, a souligné Ralf Tisler. Il a également déclaré que la partie la plus triste de la nouvelle était que les hauts responsables de l'Union européenne démentent les difficultés auxquelles les Européens feront face cet hiver. Par ailleurs, un important opérateur de réseau allemand a déclaré aux médias début octobre que le pays pourrait être contraint cette année de réduire ses exportations d'électricité vers d'autres pays afin de survivre en hiver. Heinrich Neumann, directeur technique de l'opérateur de réseau électrique allemand Amprion, a souligné mardi 4 octobre au Financial Times la possibilité de couper les exportations d'électricité vers d'autres pays pour éviter les pénuries locales. Neumann a déclaré lors d'une interview que suspendre temporairement les exportations d'électricité pendant des heures plutôt que des jours pourrait être un dernier recours pour sauver la crise énergétique des pays assiégés qui est dans l'œil du cyclone depuis que l'approvisionnement en gaz de la Russie a été coupé. La France et l'Autriche sont les plus grands importateurs de l'électricité excédentaire de l'Allemagne, dont les crises énergétiques pourraient s'aggraver en cas d'arrêt des exportations allemandes.